La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Voilà, c'est... Lorsque je suis arrivé ici avec ma maman en 1964, nous faisions la gare de Melun à pied pour arriver ici par la rue... On passait par la rue Émile Zola, nous avions à l'époque l'église dans l'ancienne, enfin à l'imprimerie. Et c'est vrai que de présenter ma mère ici et moi, j'avais 8 ans à l'époque, c'est aussi beaucoup d'émotions. C'était pas prévu ce matin. En tout cas, je remercie à l'église de permettre de faire ce parcours avec elle et surtout au Seigneur. C'est vrai, prendre la parole ici, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir que Dieu nous utilise. Nous qui sommes peu de choses, toujours pécheurs, et Dieu nous utilise. Nous qui sommes peu de choses, toujours pécheurs, et il veut nous faire collaborer avec lui à cette grande œuvre. Et en ce sens, je lui dis merci de me permettre de le faire. Population d'environ 300 000 habitants, située sur le littoral sud de l'Asie mineure, actuellement la Turquie. On trouve à l'intérieur de ces terres la vallée du Kestre, qui constitue une voie de communication naturelle. De par cette situation ou sa situation géographique, son port occupait une place prépondérante et stratégique dans l'activité de la cité, donnant ainsi un accès au marché de l'Orient. Les grandes routes commerciales, accès au marché de l'Orient. Les grandes routes commerciales à l'intérieur de l'Asie mineure convergeaient vers elle. Sa vie religieuse et sa renommée se faisaient dans le culte adressé à Artémis ou Diane, déesse de la fertilité. Ces fêtes religieuses dégénéraient toujours en orgie. Sa réputation tient en deux mots, immoralité et superstition. On trouve en son sein un temple dans toute sa démesure de l'époque. 138 mètres de long, 72 mètres de large, des colonnes de 20 mètres de haut et 120 années de labeur pour venir à bout de cette construction. Elle est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde et c'est par milliers que des pèlerins viennent admirer cette merveille dans sa splendeur, du moins ce qu'il en reste, vestige d'un temps passé, où la mémoire des pierres comme figée reste sans voix devant ces visiteurs contemplatifs. Eh bien, c'est dans ce contexte troublant que l'apôtre Paul va fonder l'église d'Éphèse en 53. En l'an 53, il s'est heurté à Démétrius qui fabriquait des temples en argent, ce qui procurait bien sûr aux artisans de l'époque un profit plus que considérable. Sa première venue à Éphèse a été de courte durée. Et c'est à cette occasion que Priscilla et Aquilas ont reçu la responsabilité de cette toute jeune église. Lors de son second passage, il restera 2 années. Il va ainsi travailler à développer l'église, ce qui va provoquer une menace pour le culte et l'industrie. Mais c'est aussi le résultat et la conséquence d'une église qui se bouge. Je vous renvoie au chapitre 19 des Actes pour voir ou peut-être revoir dans ça. Au chapitre 19 des Actes pour voir ou peut-être revoir dans ces 40 versets l'action que mène l'apôtre Paul. En effet, en y réfléchissant au-delà des apparences, à quoi ressemble l'église d'Éphèse? Comment le Seigneur la voit? On peut noter son côté la voit. On peut noter son côté bien structuré. Elle exerce différents ministères, un peu comme ici. Et au chapitre 4 des Éphésiens, l'apôtre Paul développe l'utilité en faveur de l'Église. L'Église d'Éphèse a de grandes qualités spirituelles. Ses œuvres, son travail, sa persévérance, son attachement à la doctrine de Christ, son discernement, son courage contre les faux prophètes. Elle endure des souffrances sans se lasser. Mais au-delà de ce qui est visible à l'œil humain, le Seigneur voit une faille. Et le texte nous dit, Apocalypse 2, verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Le premier messager de l'église d'Éphèse est le responsable en titre de l'église. Après avoir pris connaissance du contenu, on peut noter qu'on trouve ici les encouragements, des félicitations, il y a aussi des reproches, de l'exhortation, et ensuite il doit transmettre tout cela, toutes ces informations à l'Église. Mes amis, il est donc possible d'œuvrer avec un grand zèle pour Christ, d'être d'une grande foi concernant la sanctification, la justification. On peut souffrir pour Christ sans se décourager, mais perdre l'essentiel, le premier amour. Ne l'oublions pas, Christ est le chef de l'Église et de ceux qui en ont la charge. Le messager de l'Église d'Éphèse est donc averti. S'il ne se repent pas et s'il ne revient pas à ses premières œuvres, il va ôter le chandelier de sa place et son ministère sera confié à quelqu'un d'autre. Le terme angélique est employé définit bien sûr un messager ou celui qui est envoyé pour une mission, à l'exemple de l'apôtre Paul. Le chandelier dont il est fait mention ici s'applique aux sept églises qui se trouvent ici mentionnées dans Apocalypse chapitre 1er au verset 20. Je vous invite à découvrir ce texte. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. La présence de Dieu est représentée ici comme de l'airain ardent, symbole d'un feu purificateur. Et ici, dans le contexte, on parle bien sûr des pieds du Seigneur. Sa présence inspire la sainteté, la pureté, la sainte crainte de Dieu. Le Seigneur connaît tous ses serviteurs. Il dit à chacun de nous ce matin à l'église de Damarie, « Je te connais. Je sais qui tu es. Je vois tout ce que tu fais. Je connais aussi tes motivations. Tout est à nu et découvert aux yeux de Dieu, aux yeux de celui à qui nous devons bientôt rendre compte. » Hébreux 4, verset 13. Mais qu'est donc ce premier amour? Alors ce matin, peut-être avec un peu d'imagination, nous pourrions, avec un petit peu d'effort ou sans trop d'effort, imaginer un couple, mais pas n'importe quel couple, un couple marié, vivant dans leur vie conjugale, ce premier amour, et qui malheureusement, au fil des temps, perd de son éclat, de son engouement. Le couple est toujours uni, toujours fidèle, mais le rayonnement n'est plus là. La passion et l'attention ont fait place à la routine. Peut-être ces quelques phrases, ces quelques mots vous parlent un peu quelque part. Après quelques semaines, des mois peut-être, des années, on ne se tient plus la main, on ne s'enlace plus peut-être, on n'ose pas, on ne sait pas ce qui se passe. La passion a fait place à la déception, voire à la friction. Dans certaines situations, on a les yeux revolvers On a perdu toute forme de patience. On ne se comprend plus ou pas, ou peu. On se chamaille, on se chicane en public. Ça se termine parfois à la maison ou parfois devant les tribunaux. D'autres essaient de sauver les apparences. On joue le couple bon chic, bon genre. Nous connaissons parfois des couples, peut-être, qui sont un peu dans cette phase-là. Vous savez, les adventistes sont des couples parfaits. Oui. En 1942, pour ceux qui ont l'âge de s'en souvenir, le fou chantant posait la question sur cet air bien connu en ces quelques mots. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes. Devant le feu qui s'éteint, ce soir, c'est une chanson d'automne. Dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo? Vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il de ces billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Les mots tant qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, tout cela se sont envolés. Pourquoi? Que restait-il? Dites-le-moi. Peut-être un petit village, un vieux clocher, un paysage bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Oui, mais cet autre amour dont nous parle le prophète Jérémie, ici on vient de citer des vers de M. Trenet, cet autre amour dont nous parle le prophète Jérémie fait référence à la parole de Dieu qui dit à Israël ces mots dans Jérémie chapitre 2 au verset 2. Va écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, sans rides, ni maladie, ton affection, j'étais ton roi, tu étais ma reine. Cet amour dont nous parle le prophète Jérémie est un amour qui doit motiver nos élans, notre consécration à Dieu dans l'œuvre de l'Évangile. On peut le définir comme un attachement au Seigneur où celui-ci passe avant toute chose et même avant les œuvres excellentes que nous pourrions faire pour Dieu ou pour son Église. J'ai trouvé ici, dans la pensée sur l'Apocalypse, Ellen White nous donne ici quelques éléments à la page 13. Pensée sur l'Apocalypse. Voici ce qui est dit concernant le passage biblique d'Apocalypse 2, versets 1 à 5. Dans ce passage de l'Écriture, nous sont stipulées les conditions pour être acceptés de Dieu. La première expérience de l'Église d'Éphèse l'a conduite à de bonnes œuvres. Dieu se réjouissait du fait de son Église, reflétait la lumière céleste en révélant l'Esprit du Christ par de la tendresse, de la compassion. L'amour qui régnait dans le cœur du Christ, l'amour qui le poussa à se donner lui-même comme sacrifice pour l'humanité et à souffrir patiemment l'opprobre des hommes, même jusqu'à supporter qu'on le traite de démon. L'amour qui l'a incité à accomplir une des puissantes œuvres de guérison pendant son ministère, voilà l'amour devant être révélé dans la vie de ses disciples. L'exhortation que le Seigneur fait ici dans Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Ici, le Christ veut et use de patience et exhorte plus que jamais à la repentance. Quel est notre souvenir de ces expériences passées avec le Seigneur? Nous souvenons-nous de ces moments ou de ce moment qui a provoqué notre retrait de la vie de l'Église? À quel moment a commencé ce déclin, ce découragement? Le Seigneur veut nous encourager, il nous dit « N'ayons pas peur, n'ayons pas peur ». Le Seigneur ne condamne pas l'Église, mais il la corrige dans le seul but pour la faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Le texte d'Éphésiens 5, versets 26 et 27. Ceci, mes amis, chers amis, chers visiteurs, est un constat. Beaucoup ont perdu leur premier amour pour Christ. S'il n'en était pas ainsi, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Lymphatique, endormie, enclin aux critiques, désengagée. Ce matin, nous sommes invités à être aussi honnêtes avec nous. Alors, comment être sans tâche dans ces conditions? Si ce n'est de nous aimer les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, que se passe-t-il? Je vous invite à ouvrir à nouveau la Bible dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 12. 1 Jean, chapitre 4, au verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà, c'est ici la réponse peut-être à des questions que nous nous posons. Comment réaliser ce projet de Dieu? Tout est là en trois lignes. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il y a des conditions. Concernant cet amour dont nous découvrons au fur et à mesure de ce matin, les éléments dont Dieu nous fait partager dans Témoignage pour l'Église, c'est le volume 1, à la page 234, chapitre 39, on parle ici du véritable amour. L'amour véritable n'est pas une passion ardente et impétueuse. Au contraire, c'est un sentiment calme et profond. Il voit au-delà des apparences et seules les qualités l'attirent. Il est plein de sagesse, de discernement et son dévouement est réel et constant. L'amour aussi est une puissance. La force intellectuelle et morale est contenue dans son principe. La force blesse, mais l'excellence du véritable amour consiste dans son efficacité pour le bien, car il ne fait que du bien. L'amour ne peut vivre sans agir, et tout acte augmente et le fortifie. L'amour triomphe là où les arguments et l'autorité sont sans force. Et pour finir, Le ciel doit commencer déjà sur cette terre. Quand les enfants de Dieu seront pleins de douceur et de tendresse, ils se rendront compte qu'ils sont dirigés par l'amour et ils en goûteront les fruits. Ce sera déjà le ciel ici-bas qui les préparera à entrer dans l'immortalité. Avons-nous un amour thermomètre ou un amour thermostat? L'amour thermomètre dépend des relations autour de nous. Il monte quand les relations sont chaleureuses et il descend quand elles sont froides. L'amour thermostat reste constant, durable, malgré les hauts et les bas dans les relations. Avoir un amour thermostat demande aussi un effort. Il est un endroit, mes amis, où toutes les blessures se réparent. Il est un endroit où tous les bonheurs perdus se reconstruisent ou peuvent se reconstruire. Où toutes les fautes, sans exception, sont pardonnées et expiées par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à relire ce texte de Osée 14, 8, 9. Nous lirons les derniers versets de ce texte, Osée 14, 8 et 9. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies du Seigneur sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Mes amis, le Seigneur fait toujours ce qu'il dit, il tient toujours ses promesses. Ce matin, il nous invite à la repentance. Et moi le premier. Sinon, je viendrai, j'ôterai ton chandelier de sa place. Nous sommes confrontés à une situation de fait, et chacun ce matin est invité